When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Exécuté par
qui?
Fabrice Florent.
Let's go.
C'est parti, let's go.
Salut Maud.
Salut.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre projet estival hors série dans l'histoire de succès qui s'intitule Bâtir son succès.
Oui,
ou un succès.
Oui, le succès.
On le sait toujours pas, hein, on n'a toujours pas décidé. Cet épisode va être consacré à savoir s'entourer et demander de l'aide. Et tu avais en tête une précision importante qui était, c'est tant qu'on est encore sur la route.
C'est ça. Dans ma vision, parce qu'on suit, comme vous le voyez, un chemin chronologique dans la construction du projet, là, on est encore un peu au milieu du désert. On a des ups et des downs. Et donc, comment on demande de l'aide? Comment on se fait aider pour continuer?
Pour avancer. Et notamment dans ton cas, tant que t'as pas trouvé d'éditeur.
Exactement.
C'est un vrai sujet où ça pourrait être dans le cas d'une entreprise, tant que vous avez pas trouvé un financement et que vous êtes encore en cours de création de l'entreprise, quoi.
C'est vraiment la question du conseil, en fait.
Du
conseil extérieur. À qui tu demandes conseil? Qu'est-ce que tu demandes comme conseil? Est-ce que t'écoutes les conseils? Qui est de beaux conseils? La nuit porte-t-elle conseil? Enfin, les conseils, quoi.
La nuit porte toujours conseil.
Oui, c'est vrai.
Je sais pas comment tu l'as vécu, toi, mais moi, c'est vraiment la nuit porte toujours conseil.
Bah, c'est vrai. On dort, et après, le lendemain matin,
On voit.
On voit mieux, déjà.
Ouais, on est d'accord. Donc, t'as noté un premier point qui tourne autour de l'importance des feedbacks dans l'écriture.
Ah là là.
Et t'as parlé de fiches de lecture?
Ouais, alors c'est deux choses assez différentes. La première, c'est les feedbacks en général. Donc, demander à des gens de lire mon texte et attendre leur retour. Et après, il y a la question des fiches de lecture, où là, c'était à la toute fin de mon premier manuscrit, où j'avais vraiment besoin de feedbacks plus construits, où là, j'ai vraiment demandé à des gens des fiches de lecture. Mais je te raconterai ça...
Grave.
Ouais, juste après. Et c'est ce que je te disais... juste à l'instant, en fait, je viens d'échanger avec une amie, là, juste avant qu'on prenne le micro, qui est en train de lire la première partie de mon deuxième roman, qui me faisait justement ses feedbacks. Donc, Noah, si tu m'écoutes, je t'embrasse.
Coucou.
Déjà. Coucou, Noah. Et,
donc, tu le fais tout au long de l'écriture?
Je le fais à différents moments. Parfois trop tôt. Je me suis dit ça pour le deuxième, j'ai peut-être fait lire des choses trop tôt alors qu'en fait c'était pas assez abouti, donc j'avais eu des feedbacks mais qui finalement m'aidaient pas tant que ça parce que j'étais encore trop les mains dedans.
Mais t'avais besoin de te faire rassurer peut-être par rapport au premier, c'est ça?
Ouais, okay. J'avais besoin qu'on me dise mais c'est génial, mais c'est incroyable que tu écris ça, mais c'est génial, et c'est pas du tout ce que j'ai eu comme feedback, c'était plutôt mes éditrices qui étaient là, oui ok c'est cool, bah continue. Et de fait, c'était 10 pages. Qu'est-ce que tu veux dire au bout de 10 pages? Mais effectivement, tu demandes des feedbacks pour différentes raisons. Il y a le petit ego boost, on ne va pas se mentir, qui est toujours agréable sur un projet long, d'avoir quelqu'un qui me lit et qui dit « Oh là là, c'est cool !» Et puis après, il y a du feedback plus profond de comment améliorer son texte, qui est une obsession constante. Et vraiment, je suis persuadée que être capable de demander et d'avoir des feedbacks, c'est ce qui fait vraiment toute la différence, ce qui change tout. Et je l'ai vu notamment en atelier d'écriture, ça ne va pas du tout de soi, c'est pas du tout facile d'entendre des feedbacks.
Et pour toi, ça l'était ?
Eh bien, j'ai eu un peu cette chance.
Okay.
Vraiment, ça c'est ma grande chance, c'est que le feedback est mon ami, j'ai pas peur, et au contraire, je vais le chercher. Après, on en parlera, mais il y a aussi une manière de demander du feedback. C'est-à-dire que si tu demandes à quelqu'un « Bon, tu l'as lu, alors c'est bien », avec des grands yeux, évidemment, tu ne peux pas recueillir un feedback. Donc, il y a la manière de « Qu'est-ce que tu demandes exactement ?» Mais en tout cas, moi, la chance que j'ai eue, c'était d'être capable et d'aimer le feedback. Et ça m'a énormément aidé à progresser et à voir où je voulais aller dans l'écriture.
C'est quoi la différence pour toi entre ta position par rapport au feedback et te dire que tu aimes les feedbacks et les positions, par exemple, d'autres autrices ou d'autres auteurs que tu peux voir dans tes formations, qui ont plus peut-être peur de ce que les autres vont dire?
Je ne pourrais pas te donner la cause, mais en tout cas, la conséquence est très claire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes à qui j'ai essayé de dire... J'étais là pour animer un atelier d'écriture. On me donne un texte, donc je vais... Voilà, dire bon bah voilà comment c'est perçu. Parce qu'en fait, la question de l'écriture, c'est que je vais écrire un texte. Moi, j'ai envie de raconter l'histoire de Perlimpinpin et je pense que c'est une histoire triste. Donc moi, j'écris ça. Sauf qu'en fait, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir un feedback parce que peut-être que c'est pas du tout ce que j'ai écrit ou que toi, tu vas pas du tout trouver ça triste. Oui. Ou qu'en fait, tu dis mais c'est pas du tout l'histoire de Perlimpinpin, c'est l'histoire de Perlapapa. Et donc finalement, c'est toujours, t'es trop proche de ton texte parce que tu l'as écrit toi-même, donc t'as vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui te dise bah alors moi j'ai trouvé ça rigolo, j'ai bien aimé que ton personnage fasse ça, ça j'ai pas compris pourquoi il ait fait ça. Donc c'est pas un jugement de valeur littéraire sur c'est bien écrit, c'est mal écrit, voilà, on n'en est même pas à ce stade-là, c'est plutôt comment ton texte est perçu par un lecteur. Et toi, tu ne le sauras jamais parce que tu l'as écrit. Donc jamais tu pourras être un lecteur qui découvre le texte. Jamais, c'est la grande tragédie de l'écriture. Et donc, en atelier, je pouvais me dire, ok, donc par exemple, ce texte où tu racontes une relation, je sais pas, entre un père et son fils, j'ai trouvé ça très triste, la manière dont ils se parlaient, je trouvais qu'il y avait beaucoup de nostalgie. Non, pas du tout. Ok, d'accord. Et je me disais que peut-être...
Ah donc, nier ton feedback, nier ton...
Nier, okay. Et juste après la justification. Oui, mais non, mais en fait, c'est parce que lui, en fait, son père à lui-même était mort, et donc en fait, là, 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 là. Et j'étais en mode, mais ce n'est pas une attaque. Je te dis ce que j'ai perçu dans ton texte. Et donc, de percevoir que le feedback est une perception, et que toutes les perceptions sont bonnes à prendre et sont intéressantes, mais pas des attaques, vraiment, il y a vraiment quelque chose à jouer là-dedans.
C'est parce que tu mets... T'as la sensation que tu mets peut-être moins d'ego ou moins de... Ou c'est un peu comme si on critiquait ton enfant ?
Ben, moi, j'y mets pas du tout d'ego parce que le texte est en construction, surtout. C'est peut-être plus dur d'avoir un feedback négatif quand le texte part à l'imprimerie ou quand le livre est sorti, c'est encore autre chose. Mais au moment où je suis en écriture, ben, de fait, je... Oui. Voilà. Et ensuite, il y a aussi une question de qu'est-ce que je demande exactement à juger ? C'est-à-dire que je pense aussi, j'ai confiance en moi. Je sais que je trouve que j'écris bien, que j'ai trouvé ma manière d'écrire et je suis assez sereine sur certaines choses. Donc, je veux dire, quand on me dit « j'ai lu ta première partie », par exemple, c'est ce que m'a dit mon amie Noah. Elle m'a dit « ah, j'ai bien aimé ça, par contre, vraiment, les premières pages, je suis pas rentrée dedans. Je suis pas genre « quoi, mais si, parce qu'en fait, les premières pages, elles sont importantes, parce que si, parce que ça, oui, mais non ». Non, je suis en mode « merci Noah, trop intéressant ». Et donc, je lui ai répondu « est-ce que tu pourrais m'expliquer plus précisément ?» Pourquoi ? Alors moi, ce que je perçois, c'est peut-être que ça t'a pas plu pour telle raison. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est que t'as trouvé ça long ? Est-ce que parce que t'y crois pas psychologiquement ? Non, mais personne ferait ça. Enfin, dis-moi un petit peu où est-ce que tu trouvais ça agaçant ou pas réaliste. J'ai besoin de comprendre. Est-ce que tu peux me dire ce qui t'a pas fait accrocher ? Et pour ça, il faut juste pas commencer par dire à Noah « mais pas du tout ! » Mais t'as rien compris. Mais si, en fait, c'est trop important, c'est trop deux premiers chapitres, parce que si, parce que si, parce que ça. Et moi, je pense sincèrement que le lecteur a toujours raison. Et en fait, accueillir le feedback, ça veut pas dire que je vais changer mon texte. Enfin, je vais changer mon texte. Mais par exemple, je te fais lire une page et tu me dis, franchement, ce paragraphe Maud, il est un peu sauté. J'ai lu vite parce que je m'en fichais un peu. Il y a deux choses. Soit je me dis, au fond, il a un peu raison. Je me le disais, mais sans me l'avouer. C'est vrai que ce paragraphe, j'y tiens pas tant que ça. Bon, allez, je le coupe. Ou alors, je me dis, mais non, mais pas du tout. Il est trop important, ce paragraphe. Je l'aime trop. Mais alors, si toi, tu l'as pas perçu, c'est-à-dire que dans mon texte, je l'ai pas assez mis en valeur ou expliqué ou surligné. S'il est si important que ça, je me dis, bah, oh là là, il a pas trouvé ça très intéressant, mais pour moi, c'est trop bien parce que ce que je veux dire, c'est exactement ça. Et ben, je vais le reformuler. Encore et encore et encore.
Mettre des flèches, non ? Ça marche pas.
Mais c'est littéralement ça. Oui. Mais il y a des manières de mettre des flèches en écriture. Ouais. C'est avec des phrases d'annonce pour faire ressortir, ou alors tu coupes la fin de ton texte pour qu'une phrase remonte. Et ouais. C'est une manière de. Il y a des manières de mettre des flèches, mais en tout cas, il faut expliquer pourquoi c'est si cool et important que ça à mes yeux. Et donc pour moi, toutes les perceptions sont vraies et elles sont intéressantes. Et donc c'est ultra important, en tout cas en écriture, d'avoir du feedback. Et d'en demander et d'être capable d'entendre quelqu'un qui va te dire « je me suis ennuyée les 10 premières pages » ou « ton personnage hyper antipathique ». Et après, encore une fois, on me dit « ok, ton personnage est hyper antipathique ». Je peux me dire « ok, c'est un choix. Moi, ça me va, j'ai envie de faire un personnage clivant, c'est le cas pour mon premier roman, elle est très agaçante, ok, ça me va. Ce feedback, ok. » Au contraire, là, je me suis un peu ennuyée dans les premiers chapitres, il ne se passe pas grand-chose. c'était un peu le défaut de mon premier texte, c'est qu'il ne se passait pas grand-chose, l'histoire n'avançait pas assez vite. Mmh. Et je me disais, mince, ok, bah, qu'est-ce que je coupe? Comment je... Non, ouais.
Comment t'avances dans la direction?
Ouais, vive le feedback. Est-ce que toi, t'es un amoureux du feedback?
Ah bah oui, mais en fait, Internet, moi je suis un enfant de l'Internet, donc l'un des trucs que j'ai toujours adoré dans Internet, c'est que tu postes un truc et instantanément, ou quasi, il y a les gens qui peuvent te répondre dans les commentaires, etc. C'est un truc sur le, j'avais bâti Mademoiselle autour d'un forum, et le forum, il était bâti autour du système de réaction aux articles. Et en fait, il était vraiment intégré dedans, ce qui n'était pas forcément classique en fait à l'époque, hein, dans les médias, etc. Les médias, ils ont souvent des files de commentaires qui sont dédiés à chaque article, mais il n'y a pas de forum, quoi. Et moi, c'était vraiment ma volonté, et même pour tout en fait. C'est-à-dire que à la base, j'ai réussi à faire rentrer peut-être 50 ou 100 membres pour le forum, tu vois, et au tout début. Et en fait, c'était génial parce que je me suis vraiment construit là-dessus, et j'ai construit Mademoiselle aussi en fonction de ce qu'elle me racontait. Je leur posais énormément de questions. L'un des trucs qui pouvait m'agacer parfois, et aujourd'hui avec lequel je fais beaucoup plus la paix, c'est que je crois qu'à l'époque, j'avais besoin que tout le monde soit d'accord avec moi par rapport à la ligne édito que j'avais et que je considérais comme la bonne, tu vois. Et j'avais plus de mal à accepter les gens qui ne voyaient pas la ligne édito que je voulais amener. En tout cas, qu'il ne l'apercevait pas. Et je crois qu'avec le temps, j'ai appris un truc, notamment par rapport au feedback, c'est que les gens souvent parlent d'eux, tu vois. Ce qui n'empêche pas que leur vision soit bonne ou soit pas bonne. C'est juste que j'ai compris aujourd'hui que les gens souvent, très souvent parlent d'eux. Ils partent d'eux pour venir dire comment ils perçoivent ton texte. Et effectivement, en tant que, déjà, ça m'a vraiment permis de pouvoir arrêter de prendre les choses personnellement, parce que parfois, alors pas surtout, tu vois, mais sur certains articles qui étaient hyper importants dans la ligne édito, où vraiment parfois j'expliquais beaucoup la façon dont fonctionnait la boîte, la façon dont fonctionnait le modèle économique, etc., etc. Il y avait des lectrices qui étaient pas d'accord et qui venaient expliquer pourquoi. Et en fait, j'avais du mal avec ça, parce que pour moi, j'étais juste, sans doute je me suis mal exprimé, mais d'un autre côté, bah en fait, vous comprenez pas vraiment, enfin vous êtes pas dans mes pompes, quoi, tu vois. Il y avait aussi ce truc là je crois qu'aujourd'hui c'est un truc avec lequel j'ai vachement fait la paix, et que j'accepte beaucoup plus que les gens soient pas ok avec ce que je fais ou ce que je dis, et je le prends beaucoup moins personnellement. En tout cas, pas personnellement, parce que j'ai jamais, tu vois, ouais, si, parfois j'ai pu me sentir attaqué, ouais. Carrément.
Mais en plus, là, c'est le feedback sur ton produit fini, c'est-à-dire sur ton...
Ah
sur
oui,
ton,
oula, l'article, c'est, l'article est toujours... oui, effectivement.
Et la question que je me pose, c'est, est-ce que tu avais cette même ambivalence par rapport au feedback quand tu as créé ta boîte? C'est-à-dire que quand tu crées ta boîte, tu te dis, par exemple, je vais l'appeler Mademoiselle et je vais faire un forum. Est-ce que tu demandes à des mentors?
Non, je savais ce que je voulais faire.
Tu vois ce que je veux dire? Un peu ces feedbacks sur le chemin de ce que tu construis.
Je savais vraiment ce que je voulais faire. En revanche, tu vois, on faisait énormément de systèmes de relecture au sein de la rédaction pour les articles en cours d'écriture. Donc, il y avait vraiment un énorme truc où parfois même, quand il m'arrivait de poster des articles un peu fondateurs pour la boîte et tout, je voulais que le reste de l'équipe le lise, tu vois. Donc on était 30 à lire le truc, et 30 feedbacks, c'était intéressant, et c'était en même temps beaucoup, tu vois, parce que il fallait réussir à faire aligner tout ça en même temps, mais c'était hyper intéressant. Mais ouais, pour le coup, sur la fondation du truc,
ouais,
Je crois que j'étais assez clair avec ce que je voulais. Après, les trucs sur lesquels j'ai énormément appris, pour le coup, c'est plutôt sur toute la vie des lectrices, où j'étais plus en curiosité et en intérêt de « Ok, c'est quoi la vie d'une jeune meuf ?» Parce que moi, j'y étais pas, tu vois. Donc plutôt à poser des questions, et j'ai appris plein de choses pour le coup, mais parce que, je posais plein de questions. C'était vraiment... et notamment dans les, enfin en fait tout le temps même, tu vois, j'ai fait partie de ces gars où on a écrit le tout premier article sur le harcèlement de rue en 2012. Ça n'existait pas avant, c'était pas, personne n'en parlait et tout, et en fait à l'époque, je me souviens très bien, il y a une anecdote, les membres de la rédaction, elles arrivaient, il y avait des travaux à côté de la à côté de la rédac. Et en fait, les meufs, elles arrivaient tous les matins. Elles étaient là, putain, je me suis encore fait siffler et tout. Et bien sûr, j'ai été ce mec en 2011-2012 qui disait, bah, c'est sympa, non? C'est des compliments, c'est sympa.
Et en fait, c'est sympa, on est content.
Bah oui, elle dit. Et moi, j'en ai jamais des meufs qui me sifflent. Et en fait.
Ah là là, 2011.
Bah oui.
Et ça nous rajeunit pas, tout ça.
Et c'est important de regarder ça en face, tu vois, et de me dire. En fait, je crois que la différence avec pas mal de mecs, c'est que quand elles me disent, bah non, en fait, c'est de la merde, je dis, ah, bah, explique-moi pourquoi. Et après, on en finissait par en faire un article. Il y avait toute une blague à la fin où il y avait, faisant un article, c'était vraiment devenu un leitmotiv, tu vois, où dès qu'elles parlaient d'un truc, qu'il se passait un truc à table ou qu'il y avait une discussion à table, souvent les gens ont l'impression qu'ils vivent ce truc-là pour eux-mêmes et qu'ils sont tout seuls à le vivre. Et moi, je dis, non, non, pas du tout. Je suis à peu près sûr que tout le monde vit.
Fais-en un roman. Ça marche aussi.
Bah, fais-en un roman. Exactement.
Fais-en
un article. C'est un peu plus court à faire. De ce cas, ça se faisait généralement d'une journée, d'une après-midi. Toi, fais-en un roman, oui. Mais oui, c'est exactement pareil.
Et est-ce que tu as trouvé des bons mentors pour toute la partie business model, monter ta boîte?
Bah oui. Pour le coup, je parlais de Denis tout à l'heure. Qui lui avait 15 ans de plus que moi tout à l'heure, quand je dis tout à l'heure, c'était la semaine passée dans votre timeline de vie. Mais en fait, ouais, Denis avait 15 ans de plus que moi et lui, pour le coup, il m'a vraiment tout appris sur la façon de monter sa boîte, la façon de rentrer dans, de te mettre aussi dans la peau de l'entrepreneur, du patron, parce que moi, ça faisait des années que j'étais salarié, je connaissais pas d'entrepreneur autour de moi. Et j'avais zéro idée de ce que ça voulait dire, de ce que ça impliquait. J'en parlais la semaine passée. Là où lui, il m'a vraiment expliqué plein de trucs. Mais même, tu vois, sur les aspects fiscaux, sur les aspects légaux, structurels, de comment monter les structures, etc. Pour le coup, il m'a vraiment appris plein de choses. Et sur le management aussi, il m'a appris plein de trucs. Avec le recul, après, je me suis rendu compte qu'il m'a aussi inculqué pas mal de trucs qui me ressemblaient pas, qui lui ressemblaient plus à lui et qui me ressemblaient beaucoup moins, avec lequel j'ai appris avec le temps à faire un peu la part des choses. Mais ouais, c'était tellement précieux, en fait, tu vois, de l'avoir au presque lancement du truc.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Quoi?
Et c'est tellement beau, je trouve, de trouver des gens qui nous aident et d'être capable de les écouter. Parce qu'il aurait pu te dire aussi, oui, si j'étais toi, je ferais ça. Bon, après, vous étiez associés, donc c'est différent. Oui. Vous étiez à deux à prendre les décisions.
Pas
mais...
au début, on s'est associés un peu plus tard. Ouais.
Et ben, tu aurais pu dire, ouais, mais non, moi, je. Tu vois. Et il y a aussi ce côté d'accepter que tout n'est. Enfin, ouais, le conseil, en fait, que tout n'est pas une attaque. Et qu'il y a aussi des très bons conseils à prendre.
Plein de bons conseils à prendre. Prenez des conseils. Si vous avez. Ouais. Mais toi, tu parlais de fiche de lecture, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Eh bien ça, c'est quand j'ai voulu aller un cran plus loin, quand mon manuscrit était terminé et que j'étais sur le point de l'envoyer à des éditeurs. Pardon pour ça. J'ai sollicité une dizaine de personnes pour relire mon texte et pour me faire des petites fiches de lecture. Alors pourquoi des fiches de lecture? Parce que je me suis rendu compte que si j'envoyais simplement mon texte à des gens en mode « Alors, t'en penses quoi ?» Ben, ils vont pas répondre « Ben, écoute, c'est nul, ma chérie !» Et en fait, il faut créer un cadre où le feedback négatif est possible. Parce que c'est ça qui m'intéressait. C'est un feedback négatif qui pourrait me faire améliorer mon texte. Et donc, il y a eu plusieurs choses. Déjà, je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose d'anodin de demander à quelqu'un de relire son texte. C'est-à-dire que ça prend du temps, c'est long, c'est relou. Enfin, c'est pas juste... passe-moi le sel, tu peux pas me passer le numéro de bidulette. Enfin, je veux dire, c'est un vrai service, c'est pas anodin. Donc, j'ai posté un message sur le mur de mon ancienne promo à HEC, en disant voilà, j'ai fini un manuscrit, si certains sont volontaires, je cherche des gens pour me relire, je vous paye 50 euros, désolé, je peux pas beaucoup plus, voilà, soit en liquide, soit en bouffe. Chèque, chèque cadeau de livre à la FNAC, okay, pour vous acheter des livres, quoi. Mais en tout cas, c'est 50 euros et l'idée, ça serait de remplir une petite fiche de lecture avec un petit questionnaire sur le texte. Et donc, pour moi, c'était une manière de montrer que c'était, petit 1, pas un service anodin, et petit 2, un vrai travail, en fait, de relire un manuscrit. Et donc, la fiche de lecture, il y avait différentes petites questions dessus. Et dans mon souvenir, il y avait « Quel est ton passage préféré ?»« Quel est le passage que tu as le moins aimé ?» En combien de temps l'as-tu lu? Est-ce que tu l'as lu en entier? Oui, non. Sinon, bah, quand est-ce que tu as décroché? Pourquoi? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont gêné? Après, remarques générales, si tu avais des passages à... Si tu pouvais supprimer 3 chapitres, ça serait lesquels, etc. Et donc, des choses qui ouvraient la voie à pas juste... Alors, t'en as pensé quoi? Et la personne va pas te répondre. Bah, en fait, j'ai trouvé que je me suis ennuyée pendant le premier tiers. C'est difficile d'avoir ce retour, mais il faut faire en sorte de l'avoir. Et donc, y a peut-être une quinzaine de personnes qui m'ont répondu en mode « Ah, trop bien, j'ai toujours rêvé de lire un manuscrit, je m'ai toujours dit « Oh, ça peut être rigolo, vas-y, je suis chaud, envoie-le-moi. » Et donc, la deuxième règle à respecter, c'est que j'ai envoyé donc, mon manuscrit à ces personnes intéressées, mais je ne l'ai jamais relancé. C'est-à-dire que moi, l'idée, c'était « je ne veux pas forcer et dire « Alors, oui, t'as le temps de lire ? Alors, oui. ?» Non. Et parfois, je dis, parce que je suis trop gentille et que je ne sais pas dire non, c'est un autre sujet. Il y a des gens qui me disent « Oh, tu ne peux pas relire mon manuscrit ?» Je suis en mode « Ok, je vais essayer. » Et en fait, je n'ai pas le temps. Et après, toutes les semaines, j'ai une relance. Et je suis toujours un peu mal à l'aise, donc il faut que j'apprenne à dire « Non, je n'ai pas le temps », ce que j'apprends à faire progressivement, mais bref. Quoi ?
Bravo.
Oui, oui, un autre dossier. Et donc moi, je m'étais forcée et jurée, crachée, que je ferais jamais ça, parce que je voulais que les gens qui le fassent, 50 euros pour relire 300 pages, c'est pas très cher payé. Donc de toute manière, ça restait quand même légèrement du bénévolat. Mmh. Et donc, voilà, je l'ai envoyé à une quinzaine de personnes, et il y en a peut-être 8, tu vois, qui m'ont répondu. Et je me suis dit, c'est super. Mmh. Enfin, voilà. Et donc, il y a quand même aussi un tri naturel. Donc, si vous avez besoin de feedback sur des projets longs, alors c'est particulier, quand tu montes ta boîte, ça demande peut-être un autre type de feedback qui est peut-être moins long, quoique, j'en sais rien. Mais en tout cas, peut-être, soyez un peu conscient du temps des gens. Et surtout, n'oubliez pas que vous leur rendez, qu'ils vous rendent un service et pas l'inverse. Et non, le message que je reçois en mode, ah, j'ai fini un manuscrit, ça t'intéresserait de le lire? Bah non. Enfin, pardon, mais non, en soi, non. En revanche, j'aurais vraiment besoin de retour. Est-ce que tu accepterais de me donner un peu de temps et de me relire et de me donner de ton retour? Oui, bien sûr, je te le ferai avec plaisir. Mais je te rends un service. Je fais pas ça pour... tu vois, quand même clarifier. Ah, ça t'intéresserait...
Pour tous les gens qui nous écoutent, n'envoyez pas de DM à mot de...
Non, mais non, m'envoyez pas de DM en mode « Ça t'intéresse de lire mon manuscrit? Voilà, le voici, machin. » Non, mais c'est comme les gens, parenthèse. Ah, mais ça t'intéresserait qu'on boive un café? Parce que moi aussi, j'ai envie de publier un premier roman, donc peut-être qu'on pourrait aller boire un café. Bah, est-ce que ça m'intéresserait? Non, mais je suis un monstre ou pas? Bon, bref.
C'est une vraie question que tu poses?
Ouais, non, bon, ok. Mais il y a un côté, mais n'inversons pas les rôles, oui.
Est-ce que j'aimerais bien pouvoir...
J'aimerais bien pouvoir prendre un café, est-ce que tu accepterais à répondre? Oui, avec plaisir, je répondrai à tes questions avec plaisir. Si je peux t'aider, je t'aiderai avec plaisir, mais je t'aiderai avec plaisir. T'es pas ma copine, t'es pas mon copain, et j'ai envie de faire un peu autre chose devant samedi soir, sinon. Bref, on s'en fout.
J'avoue.
Voilà.
Je suis un monstre, t'es marrante.
Ouais, non, mais. et donc, c'est comme ça que sont nées ces fiches de lecture, et c'était vraiment fascinant comme exercice, parce que, donc, sur les 10 personnes qui m'ont renvoyé la fiche de lecture, 8, 10, je sais plus exactement, genre 9 sur 10 avaient le même passage préféré, qui, une fois que le livre est sorti, est devenu le passage un peu culte. Donc, c'est la scène de la Clémentine, pour ceux qui l'ont lu. Et j'ai trouvé ça fou, parce que je jure que quand je l'ai écrit, jamais je me suis dit que c'était le chapitre un peu cool. Pour moi, c'était un chapitre parmi d'autres, mais pas mieux que les autres. Enfin, c'est juste un chapitre. Et je vois une personne qui me dit « Ah ouais, mon passage préféré, les yeux fermés, c'est la Clémentine. » Puis une deuxième, puis une troisième, puis tous. Et je me suis dit « C'est fou !» Et donc, je crois très 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 fort au feedback, petit 1, et je crois beaucoup aussi à la vérité du nombre, c'est-à-dire que quand 10 personnes me disent que leur passage préféré c'est ça, et que si 10 personnes me disent j'ai trouvé le début un peu long, je me dis pas, oui mais non, parce que le début en fait, non, le début est un peu long, et c'est ok, et c'est pas grave, et on va raccourcir, mais à part si je
on reparlait dans l'épisode précédent d'être auteur et de, voilà, à part si je décide, non, je veux un début un peu long et c'est important pour moi parce que je veux poser telle chose, et il sera un peu long et c'est comme ça. Mais pas de subir, de choisir.
Bien sûr. Mais alors, côté entreprise, il y a un truc que j'ai jamais fait pour le coup et que j'ai hésité à faire pendant les dernières années et qu'en fait, en vrai, j'aurais dû faire d'entrée parce que j'avais un peu plus de temps aussi, c'était de monter un pool de gens qu'on pourrait appeler un board en fait, mais un board amical de gens que t'aimes bien, qui connaissent ton business, qui te connaissent toi, qui ont envie de te filer un coup de main, que tu peux rémunérer ou pas en fonction de tes problématiques, de tes attentes, etc., de ce que ça te rapporte et aussi de ce que ça rapporte à la boîte. Et je l'ai jamais fait, mais tu vois, ça peut être un pool de 3, 4, 5, 6 personnes auxquels tu tiens, qui n'ont rien à voir dans la boîte, qui ne sont, qui sont pas partenaires, associés ou quoi que ce soit, qui sont juste des gens qui ont envie de te faire progresser, de faire progresser le projet, etc. Et c'est un truc que je n'ai jamais fait, pour le coup. Mais les dernières années, j'y ai beaucoup songé, mais je n'ai jamais vraiment pris le temps de m'y coller, parce que ça nécessite tu vois, de prendre un peu de temps, de contacter tous les gens. Mais voilà, c'est un truc aussi que tu peux faire si jamais ça t'intéresse. Généralement, moi, on m'a proposé à quelques reprises de venir être comme ça, de venir filer des coups de main. C'est un truc qui peut se faire, quoi.
Et j'aime bien l'idée aussi que ces personnes soient extérieures au Schmilblick, c'est-à-dire que ces personnes fichent de lecture. J'ai adoré. Et elle me disait, oui, mais je suis pas éditeur. Mais... Et j'étais en mode, au contraire, j'aime le fait que ça ne soit pas ton métier, que tu sois un lecteur comme un vrai lecteur, et que tu n'aies pas de parti pris ni émotionnel, ni financier, ni quoi que ce soit dans mon aventure, que tu sois un pas de côté. Et je le vois là dans l'écriture du deuxième livre, j'ai des éditrices dont c'est le métier, mais en fait ça ne remplace pas, en tout cas c'est complémentaire d'aussi un feedback autre, qui est une autre sorte de lecture, qui n'est pas une lecture professionnelle, qui n'est pas une lecture d'éditrice en fait, mais qui me porte également.
Écoute, t'avais mis dans cette partie, gérer le regard de mon éditrice, mais peut-être que c'est dans l'étape d'après, alors par rapport à ton cheminement.
Ben, c'était... Non, je pense que c'est...
L'épisode prochain,
ouais.
Spoiler, c'est travailler en équipe.
Ouais. Non, parce que pour moi... Ouais. Non, je pense que c'est là-dedans, parce que ensuite, quand j'ai eu un éditeur, j'ai eu des feedbacks de mon éditrice, et là... C'était beaucoup plus dur de rester autrice et capitaine parce que quand j'avais mes retours de fiches de lecture, entre parenthèses, c'était aussi pas anodin que je le poste sur le mur de ma promo, qui n'est pas mon groupe avec mes meilleurs amis non plus, parce que je pense que demander feedback à ton amoureux, ta sœur, c'est peut-être... Enfin, moi, je trouvais ça plus difficile que... des connaissances, des gens de ma promo. Des
plus
gens...
difficile pour eux, tu veux dire, ou pour toi?
Les deux, pour eux, surtout. Pour eux. Enfin, pour eux et pour moi, on se connaît trop. Mm. C'est peut-être plus difficile de dire je veux tellement les feedbacks négatifs que je trouve ça plus difficile de créer cet espace, alors qu'une connaissance de promo que t'aimes beaucoup, mais je veux dire que tu vois pas tous les week-ends, c'est peut-être plus facile d'avoir ce regard genre « Ah, bah ça j'ai moins aimé, etc. » Et de créer ce truc presque professionnel, tu sais, où tu les payes, où il y a ce truc un peu à distance de service rendu contre monétisation, quelle qu'elle soit, mais pas juste lien émotionnel dans le bazar que tu peux avoir avec ta sœur ou ton amoureux, par exemple. Et donc, quand mon éditrice a accepté mon texte, a commencé à me faire des retours, c'était plus dur parce que j'avais cette idée en tête, ah, elle a raison, forcément. Et alors que les autres feedbacks, je les prenais avec plus de distance en disant « Ah, pourquoi il a pensé ça ? Ok, je vais modifier. » Mais je restais vraiment, tu vois, maître à bord. Et là, ça a été plus dur de tenir
les
rênes.
Parce que c'était le retour d'une professionnelle, c'est ça ?
Oui, et parce que aussi, elle était plus sûre d'elle quand même, donner ses retours. Alors que forcément, quand t'as quelqu'un un peu extérieur au bazar, forcément, la personne dit « Bah moi, perso, j'ai adoré ce passage. Et ce passage, j'ai moins aimé, mais voilà. » C'est plus formulé comme ça, versus une vérité. Et là où j'ai eu une grande chance, je m'en rends compte rétrospectivement, c'est que depuis le début, j'ai deux éditrices. Une éditrice qui fait ça depuis des années, qui a de la bouteille et qui est vraiment géniale, qui s'appelle Sylvie. Et à ce moment-là, une assistante d'édition qui avait quelques années de moins que moi,
qui venait d'arriver dans la maison d'édition, qui était stagiaire et qui a relu mon texte au même moment et qui travaillait en même temps sur mon texte. Et en fait, c'était assez fou parce que j'avais les retours de l'une et de l'autre dans deux manuscrits séparés, parce que tu sais, c'est encore un peu à l'ancienne. Elles impriment le manuscrit, elles font des retours à la main et elles me donnent les petits paquets. Vraiment.
Wow.
Et j'aime beaucoup d'ailleurs, moi qui suis très main, carnet, écrit, enfin, j'aimais bien voilà, que ce soit des choses imprimées. Bref. Et en fait, depuis le début, j'avais mes deux textes avec une éditrice qui pouvait dire « super dans la marge » et l'autre « on coupe ». Et donc, à partir du moment où, dès le début, tu vois deux lectures...
Ouais.
Et un qui te dit ah trop bien ce passage et l'autre on coupe c'est long, et bah dès le début ça te met un peu en position de l'éditeur reste aussi un lecteur, ça reste une vision subjective et donc en fait ça reste encore toi l'auteur et il faut garder les rênes, mais c'est pas toujours facile
de garder les rênes à ce moment-là. Ok,
parce que tu dis qu'elle a raison, je me dis Sylvie a fait ça depuis 30 ans, elle connaît ça par cœur. J'arrête pas de me dire, si elle dit ça, c'est qu'il doit avoir une raison. Tu vois, si elle me dit, c'est un peu long, tel chapitre, je pense qu'il faudrait couper 3-4 pages. Moi, je reprends, et je fais, oh là là, bah non, je vois pas. Mais je me dis pas, ah, oh, j'ai raison. Je me dis, il y a forcément une raison. Elle a pas de part. Enfin, tu vois, qu'elle a rien à gagner à me dire de supprimer 3 pages. C'est qu'elle a de fait trouvé ça trop long. Je lui donne toujours le bénéfice sur moi, parce qu'elle a du recul, parce que. Elle connaît pas chaque ligne par cœur comme moi. Mais en même temps, une fois que tu as dit ça, comment tu fais pour pas modifier ton texte et te dire, mais enfin, attends, mais c'est pas du tout ce que j'avais envie d'écrire à la fin. Donc, exercice d'équilibriste.
Écoute, j'ai eu un peu, moi, le même exercice avec Denis, donc, qui avait 15 ans de plus que moi, tu vois. Et moi, j'étais apprenti entrepreneur, là où lui, il avait eu une boîte avant, etc. Et effectivement, c'était un peu pareil. C'était un jeu d'équilibriste entre les choses qu'il me disait. Il s'était un peu adouci sur la fin, mais de façon très assertive au début, parce qu'il avait raison. Et je crois que plus moi, je prenais en expérience et en bouteille, plus lui se retrouvait dans une position aussi peut-être moins haute par rapport à moi, où je me retrouvais à être capable de prendre mes propres décisions. Et il y avait parfois des trucs qu'il me disait avec lesquels j'étais pas du tout d'accord, voire même parfois où il m'envoyait des trucs où j'étais là, mais en fait, moi, c'est un niet total, ou alors que je prenais des décisions avec lesquelles il n'était pas d'accord, mais je m'en fous en fait, parce que c'est ma boîte et c'est moi qui le fais à la fin, quoi, tu vois. Et surtout, c'était moi qui gérais la boîte au quotidien, donc c'était intéressant aussi cet équilibrage. Et en même temps, c'était hyper intéressant de l'avoir, parce qu'il n'était pas dans la boîte au quotidien et il suivait plein de trucs. Donc il y avait un peu une sorte de Jiminy Cricket, quoi, tu vois. Et je sais que pour les entrepreneurs et pour des amis notamment, tu vois, qui montent leur boîte tout seuls, qui n'ont pas forcément d'associés, c'était ultra précieux de l'avoir et d'avoir une oreille. Et de, tu vois, parfois je l'appelais juste pour lui balancer, tu sais, les fameux fuck, tous les fuck dont je parlais un peu plus tôt. Les yeah, c'est pareil, c'est que lui il me disait, ok, qu'est-ce qui a bien été. Il m'a aussi pas mal aidé à faire ça. Et je lui balançais tout et ça me faisait un bien fou. Alors certes, je m'en servais un peu comme une poubelle, tu vois, mais lui, il acceptait aussi ce rôle-là dans ces moments-là et c'était hyper précieux. Et j'invite tous les gens qui sont entrepreneurs, qui sont en train de lancer des projets, etc., à vous dire, ok, elle est où mon oreille bienveillante et il est où mon Jiminy Cricket, parce que vraiment parfois je le voyais comme ça, quoi, tu vois, c'est le gars qui me susurrait à l'oreille des trucs, quoi, tu vois. Et parfois j'étais complètement pas d'accord avec lui et parfois je me rendais compte souvent après coup en plus qu'il avait raison, et il avait toujours là, cette grande délicatesse de jamais me dire je te l'avais bien dit.
Mais oui, où est mon oreille, où sont les retours, est-ce que je suis capable de les entendre? Mais est-ce que je suis capable de garder les rênes? Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour dire ci, pour dire ça. Et donc, il faut quand même être droit dans ses bottes par rapport à ce qu'on veut faire et pas dévier de son projet. Et en même temps, je pense qu'on va vraiment pas très loin si on se fait pas aider et si on n'a pas de retour. Enfin, en tout cas, en écriture, c'est criant.
Ouais. Et tu vois, l'un des trucs, moi, que j'ai appris, c'est que quoi qu'il arrive, que vous ayez des conseils, des bons conseils, des mauvais conseils, des conseils de gens autour de vous. En fait, si vous êtes à la tête du projet, c'est vous qui êtes à la tête du projet. Et je crois que, tu vois, notamment pendant les premières années, j'attendais beaucoup de lui qu'on co-décide, tu vois, voire même qu'il décide à ma place. Et en fait, pas du tout. C'était moi le boss. Il fallait que j'y aille, il fallait que je, et que je prenne les trucs. J'ai vraiment évolué avec le temps entre, ok, bah en fait, oh là là, là je sais pas quoi faire et je suis paumé. Donc en fait, décider ma place, je suis passé à, ok, c'est quoi ton conseil? Et peut-être qu'il y a d'autres gens aussi à qui je peux demander conseil. Et à la fin, je finis par trancher, mais en fait, c'est moi qui tranche et c'est moi qui tranche en mon âme et conscience.
Et je trouve qu'il y a une métaphore qui me revient souvent en tête quand je fais lire mon texte, c'est vraiment mettre de l'eau dans mon moulin. Il y a vraiment ce côté où ça alimente aussi ma réflexion. Mmh. Et sinon, à la fin, c'est un peu stérile et je suis là face à mon texte, je ne sais plus quoi en penser. Et donc, avoir quelqu'un qui va me dire « Oh là là, ton personnage, il est antipathique », ça va me faire réfléchir en mode « Ah, pourquoi elle pense ça ? Ah oui, c'est vrai. Ah non, mais attends, elle a raison. Bah, attends, je vais corriger ça. Ou au contraire, mais oui, mais je dois l'accentuer. Mais en fait, ça me va. » Et dans tous les cas, ça alimente le travail et la réflexion. Et ce petit, ouais, cette matière qui vient de l'extérieur, je la trouve tellement féconde.
Eh ben écoute, est-ce qu'on a d'autres choses à voir ? Sinon, j'ai envie de dire...
Ouais, je discutais avec mon éditrice pour essayer de comprendre un peu comment fonctionnent les autres auteurs. Parce que bon, il y a trouver du conseil et puis il y a aussi copier ce que font les gens, comment ils font, etc. Et donc, il y a beaucoup de podcasts sur l'écriture comme Bookmakers, que j'aime beaucoup. J'écoute beaucoup d'interviews d'écrivains. Ça m'intéresse toujours de savoir comment ils travaillent, comment ils font, etc. Quelles sont les bonnes pratiques, comme on dit. Et bref. Et mon éditrice me disait qu'il y avait beaucoup d'auteurs qui fonctionnaient effectivement avec un double système de feedback. L'éditeur, qui est ce rôle professionnel et extérieur, et le feedback amical, proche, autre. Et donc souvent ça peut être, je parlais d'une écrivaine en particulier, elle disait c'est son mari qui la relit toujours au fur et à mesure, ou c'est sa mère qui la relit toujours au fur et à mesure parce qu'elle adore lire, etc. Mais il y a beaucoup d'auteurs qui ont un, tu vois, témoin, j'ai envie de dire, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire témoin, privilégié un peu au fur et à mesure. Mais et je trouvais ça intéressant parce que j'avais... je me posais beaucoup la question. Je me disais, est-ce que je peux encore demander du feedback à d'autres personnes maintenant que je suis publiée, maintenant que j'ai deux éditrices qui dont c'est le métier, puis qui sont rémunérées pour ça et dont c'est le travail de me relire et de m'aider. Et en même temps, il y avait comme un petit manque où je me disais, mais en fait, moi, j'ai aussi envie que d'être lue par des copines de copines, des regards un peu autres. Et je me disais, mais est-ce bizarre ? Et donc, j'en ai parlé avec mon éditrice qui m'a dit, ah non, pas du tout.
Des lectrices lambda, finalement.
Voilà,
en fait.
Des lectrices lambda ou même des amis. Parce que j'avais une amie proche qui m'a beaucoup aidée pour le premier, qui me relisait beaucoup. Depuis, elle a eu un petit garçon, donc elle est moins dispo pour me relire. Mais en tout cas, pour le premier, elle a eu un rôle assez fondamental. Et c'est à elle que j'ai eu envie d'envoyer les premières pages de mon deuxième livre, avant toute chose. Et je me disais, mais est-ce que c'est bizarre ? Qu'est-ce que mon éditrice pourrait en penser ? Mon éditrice était là, ah ben non, c'est deux choses totalement différentes. Et t'as des relecteurs amis, et puis tu peux avoir des relecteurs éditeurs, éditrices. Et bref, et je trouve ça chouette de se dire que c'est comme dans la vie. T'as plein d'amis différents et chacun a un rôle différent dans ta vie, quelque chose de différent dans ta vie. Et le feedback, c'est un peu la même chose. Tu peux avoir, tu vois, ton feedback professionnel et puis un feedback un peu autre, puis ton premier lecteur et puis ton lecteur ego boost un peu enthousiaste, et puis ton lecteur critique, et puis enfin tu peux multiplier les retours et leur statut.
Et ça, tu les as aujourd'hui, ces piliers là un peu?
Non.
Ok.
Et moi, je trouve que c'est un peu le truc que j'essaie de construire là et qui est pas facile.
Tu me disais que t'as l'impression que c'est moins simple aujourd'hui de trouver des relecteurs ou des lecteurs autour de toi parce que t'es publié.
Ouais.
Alors que pour moi, au contraire, il y a un côté, c'est potentiellement valorisant, tu vois, que de venir lire ton bouquin en sachant que ton bouquin en cours de travail, en sachant que le premier a si bien marché.
Eh ben, je sais pas si c'est parce que moi j'ose moins, mais j'ai l'impression qu'il y a ce côté. Avant, j'avais pas d'éditeur. Je bossais toute seule sur mon texte depuis 3 ans, un peu comme une brebis perdue. Donc, je faisais un petit peu de la peine. Et donc, je pense que les gens, non, mais c'est vrai, avaient un peu envie de m'aider en mode « Ah !»
Mais ça, c'est ta vision à toi, parce que eux, de leur côté, ils voyaient pas forcément ça.
Oui, peut-être. Je ne sais pas quelle était leur vision. N'empêche que là, je me sens un peu seule, tu vois, et j'ai pas retrouvé, tu vois, un vrai mode de fonctionnement où mes éditrices ont leur juste place, où j'ai mes relecteurs proches, mes relecteurs plus lointains. Donc là, le deuxième en cours d'écriture, donc je vais essayer de me restructurer cette équipe, en fait, ouais. rapprochée. Et pour l'instant, je n'y arrive pas. Et il y a ce côté, tu vois, le fait que ce soit publié et le fait que le premier livre ait aussi bien marché, il y a aussi le côté, bah, tu as des éditrices qui sont payées pour ça. Et enfin, je ne vais pas bosser gratuit. Pour
t'as
toi.
Vraiment des gens qui te disent ça ou c'est ta
moi.
Perception
c'est okay. ma perception, mais je vois bien que on propose plus le premier. Quand je disais ah, je t'entendrai sur un manuscrit, les gens me disaient ah, mais je veux grave te relire, ça m'intéresserait de lire un manuscrit. La personne me propose de me relire.
Ah oui.
Et quand je propose, on répond bof bof.
Ah ouais.
Mais maintenant, tu vois, en voyant ton regard, je me dis, est-ce que c'est moi dans ma tête? Mais tu vois, est-ce que c'est moi qui projette?
Part toujours de soi.
Ouais.
Toujours.
Mais en tout cas, et c'est marrant, je disais ça il n'y a pas longtemps. Je disais ça à un ami. J'ai croisé Danny Boone par hasard à une soirée. Bref. Okay. Et je lui disais, tu sais, c'est quoi la différence entre Danny Boone et moi? Il était là, alors là, j'en vois plein, mais à quoi tu penses? Et je ne sais pas pourquoi ça m'avait marqué à ce moment-là. Je vois, parce que Danny Boone, il a une équipe et il est bien entouré. Et je me disais que quand tu étais Danny Boone, j'en sais rien, je ne le connais pas, hein, je parle en son nom. Mais je me disais, lui, il a construit sa carrière. Il a un agent, un producteur, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, une équipe rapprochée, des gens de confiance où il se dit, ok, est-ce que j'accepte ce film, est-ce que j'accepte pas ce film. Enfin, tu vois, vraiment, sa petite équipe, en tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. Peut-être qu'il dirait pas du tout, mais en tout cas, je l'imagine hyper bien entouré sur des bases solides. Tu vois, comme un petit navire où il est le capitaine, mais où il a plein de membres de l'équipage où chacun a son rôle. Mmh. Et donc, ça lui permet d'être aussi fort. Parce qu'il sait conduire son truc. Et moi, j'étais en mode, moi, je suis encore avec ma barque et je ne sais pas qui y a dessus.
Rendez-vous la semaine prochaine. Parce qu'on parlera
oui
de construire une équipe et de savoir déléguer.
Ah ben voilà, c'était fait exprès, la transition.
Je ne crois pas.
Non, super. Pas du tout.
En tout cas, ça nous amène là. Des bisous.
Bisous.
Salut.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.